Bonjour à tous. La maison d'édition Potok à Saint-Laurent-de-Mur dans le Rhône est revenue vers moi pour nous proposer de découvrir un ouvrage un peu différent. Un recueil qui permet de réviser l'histoire des guerres de 1870 et de 1914 grâce au carnet de campagne contenu, à l'époque, les aïeux de l'auteur, Roselyne Villaumet. Tous deux soldats pendant ces affrontements, ils ont écrit ce qu'ils vivaient sur des petits carnets. Il y avait aussi des lettres dans son grenier qui permirent à l'auteur de retracer un peu leur vie. Un point de vue sur les combats depuis un angle que l'on ne nous partage jamais puisque l'histoire avec un grand H est écrite par les vainqueurs qui bien souvent ne prenaient pas part au conflit. Roselyne Villaumet est née en 1951 en Indre-et-Loire. Après sa formation au Conservatoire d'art dramatique de Paris, elle tourne dans des films et des pièces de théâtre dans les années 70 et 80. Et on la retrouve par exemple dans le casting du film « Les doigts dans la tête » de Jacques Doyon, « Un amour de pluie » de Jean-Claude Brialy ou encore « La passion Béatrice » de Bertrand Tavernier. Après avoir passé quelques années dans le Languedoc-Roussillon, elle s'installe à Lyon et consacre son temps désormais à l'écriture. Lorsque Thierry Cassity, président de Potok Éditions, lit le manuscrit de l'Étoile du Soldat, il est enthousiaste et lance l'impression du livre. J'ai aussi passé un excellent moment avec Antoine Petit et Raymond Galabrin, et je pense que vous aussi, cette lecture d'une tranche de vie de ces deux hommes, aïeux de Roselyne, ne vous laissera pas de marbre. Commençons par un rappel historique. De 1868 à 1870, une grave révolution secoua l'Europe. Guillaume Ier, roi de Prusse, décida de placer l'un de ses cousins, Léopold, sur le trône espagnol. La France, dirigée par Napoléon III, vit là un danger. Elle s'opposa à la Prusse, qui accepta finalement de ne plus revendiquer l'Espagne. Mais Napoléon III demanda à Guillaume Ier une lettre d'excuse. Le chancelier prussien Bismarck profita de l'occasion pour envenimer la situation. Il incita Guillaume Ier à ne pas rédiger la lettre, ce qui entraîna la France à déclarer la guerre à la Prusse le 15 juillet 1870. Guerre perdue pour la France qui demanda la paix. Elle fut signée le 28 janvier 1871. C'était la première fois qu'une armée faisait appel à des conscrits. Ils furent galvanisés et répondirent présents. La France perdit 139 000 soldats, on compta 143 000 blessés et 32 000 malades. La famine s'installa en divers endroits. Tous ces jeunes hommes perdent rapidement leur enthousiasme belliqueux. Ils errent d'un village à l'autre dans des régions qu'ils ne connaissent pas, après des kilomètres et des kilomètres parcourus à pied, parce que l'ennemi approche et qu'il faut le stopper. Ils sont très souvent affamés, frigorifiés, malades parfois, voire blessés. Et puis, après une pause de quelques jours ou de quelques heures parfois, un nouvel ordre les fait lever le camp et rebrousser chemin jusqu'à rejoindre le village duquel ils étaient partis. Du grand n'importe quoi, mais un ordre est un ordre. Les hommes sont happés par le froid. Une boue neigeuse grignote les trottoirs. Ils comprennent que l'hiver les a suivis. La bouche sèche, le ventre vide, ils sont reçus à l'intendance, installés provisoirement dans un bâtiment un petit peu excentré. On leur distribue des ballots de linge envoyés par les familles, heureusement prévenus de cet arrêt dans le parcours de la troupe. Antoine aperçoit plusieurs feuilles de papier pliées mêlées aux vêtements. Du courrier. Il s'apprête à le découvrir quand on leur enjoint de reprendre la route sans plus tarder. Il faut obtempérer avec cette nouvelle charge, comprimée dans de pauvres paquets mal ficelés. Sur la route, les soldats affrontent la neige compacte qui colle aux godillots et rajoute des kilos inutiles aux foulées. Le soir, confinés dans une grange, ils s'écroulent comme à l'accoutumée sur des fagots de paille, sans la moindre lumière, et se partagent des restes de nourriture rescapés du voyage. Avant de céder au sommeil, Antoine ne peut qu'imaginer le contenu du courrier familial, mais le contact du papier qu'il a glissé contre sa poitrine le réconforte. Antoine tente d'écrire. Après une nuit passée dans une grange, ils ont traversé dans la matinée un village accueillant où les paysans se sont empressés de leur offrir une soupe chaude particulièrement savoureuse. Maintenant, ils stationnent sur le bord de la route. On entend au loin le tapage de la bataille. Son attention se porte alors sur ses chefs. Le général vient de s'adresser au colonel. « Colonel, nous n'avons pas le choix, vous le savez. » « Je le sais. » Les Prussiens sont en surnombre, nos chances de nous en sortir sont presque inexistantes. Le nombre ne fait pas la force, le courage fera la différence. Nous en avons. Regardez nos hommes, ils sont prêts à vendre chèrement leur peau. Les combats se font entendre. Des cris inhumains surprennent soldats et officiers, les coups de canon assourdissant les troupes. Comprenant l'inévitable défaite, le repli est ordonné. Au moins pour la nuit. Mais il faudra y aller au combat. Malgré tout, repli de courte durée, car on crie à la baïonnette, il doit prendre sa place dans la troupe, entraîné par le flot de soldats qui a envahi le verger. Les hommes s'empressent de s'armer et de former les rangs. En qualité de clairon, Antoine est posté à l'avant pour sonner le pas de charge. Il s'exécute, tel un automate soutenu par la clameur guerrière des siens. Le bataillon fond sur l'ennemi qui s'est retranché dans un vieux cimetière. Les lance-épées fichées à l'avant des fusils pourfendent la chair des adversaires dans un même élan aveugle. Le sang gicle, se mêle à la neige projetée par les sabots des chevaux. L'air est saturé de fumée. Les volées fracassantes des batteries allemandes, françaises se répondent dans un tumulte effarant. Antoine se démène, les oreilles bourdonnantes. Les Français réussissent à contraindre les Uhlans à sortir de l'enclave pour prendre la direction de Corcelles, laissant derrière eux des cadavres anonymes éparses sur le sol, livrés à leur ultime solitude. Avant de rejoindre la ville, le bataillon doit passer au-dessus d'un canal par le goulot d'un pont en bois qui tremble lorsque les hommes s'y pressent les uns derrière les autres. Ils perdent un temps précieux et doivent emprunter un autre pont qui enjambe le Doubs. Ils n'atteignent Corcelles qu'à la tombée de la nuit. Puis, le temps passant, arrive le moment tant espéré de tous ces jeunes hommes qui ont vieilli trop vite, le retour à la maison. Évidemment, la joie l'emporte, mais une sorte de mélancolie empare Antoine et ses amis de guerre. Ils doivent se séparer, partir chacun de leur côté, après avoir partagé ces instants d'horreur ensemble, après s'être soutenus et réconfortés lorsque l'un flanchait. Moins de 45 ans plus tard, c'est au tour de Raymond, petit-fils d'Antoine, de partir la fleur au fusil pour se battre contre les Allemands. Et pour tenir dans les tranchées, transi par le froid, mordu par les poux, plié en deux par la faim. Il y a l'agnole et les clopes. 1870, puis 1914, deux guerres qui changeaient à jamais la vie de simples paysans devenus soldats.